ce livre qui est paru l'an dernier, qui s'appelle Malscience. Donc je suis journaliste à Mediapart, et de formation j'ai été scientifique, j'avais fait une thèse de biologie, de neurobiologie, il y a 20 ans de ça, et j'ai fait beaucoup de journalisme scientifique, notamment au magazine La Recherche, et ce qui m'a frappé justement en tant qu'observateur extérieur du monde scientifique, c'est la multiplication, disons depuis une petite dizaine d'années, d'affaires frappantes de fraude scientifique. D'affaires frappantes et massives. J'en ai listé quelques-unes ici, dans différentes disciplines, avec à chaque fois ce qu'on appelle des rétractations, c'est-à-dire un article qui a été publié par un chercheur et retiré, rétracté de littérature scientifique parce que les données qu'il rapportait étaient frauduleuses. Ce sont des cas alors, qui peuvent frapper en haut à gauche, là vous avez Obogata et Sasai, un couple de japonais qui travaillait en biologie des cellules souches. Qui a été amené à retirer deux articles dans les meilleures revues, puisqu'ils essaient de la revue Nature. Vous avez également Wang, un sud-coréen, donc vous voyez qui était un personnage auquel on prédisait le prix Nobel. C'était le premier prix Nobel de biologie coréen, sud-coréen, qui lui aussi a été amené à retirer cette fois des articles dans Science sur des questions de clonage thérapeutique. Vous avez et même des véritables industriels de la fraude. Là, je pense à Dietrich Stapel, qui est un psychologue néerlandais. Et également Jan Hendrik Schön à gauche, qui lui a retiré 17 articles dans physique théorique, en physique des semi-conducteurs. Tout cela pour dire que ce n'est pas ce qu'on a au début, on a souvent à voir les premiers cas de fraude, dire bon, ça concerne surtout soit les sciences sociales, soit la biologie, ce sont des disciplines à l'épistémologie parfois plus fragiles. Ça ne peut pas arriver dans les vraies sciences, les sciences bien dures. Eh bien si, ça peut arriver en physique, que ce soit en physique appliquée, c'est le cas de Hendrik Schön, ou en physique dite théorique, avec les inénarrables frères Bogdanov, dont il faut quand même souligner qu'ils ont publié des articles dans des revues de qualité. Ces articles n'ont pas été retirés. Ils ne sont pas cités non plus, parce que ce qu'ils rapportent, c'est comme leur thèse, ça n'a absolument aucune valeur scientifique, mais il n'empêche que ces articles sont toujours dans la littérature scientifique et que cela prouve tout au moins que ce système d'évaluation des articles est pour le moins déficient, puisqu'il est capable de laisser passer des articles qui sont, de l'avis général des physiciens théoriques, des tissus d'ineptie. C'est possible également que ces articles n'aient pas été retirés, les articles des Bogdanov, du fait du caractère très procédurier de ces deux messieurs qui n'hésitent pas à poursuivre en justice pour diffamation. Et je pense que l'éditeur n'avait pas envie de s'affronter à cela. Donc voilà ce qui m'intéressait. La discipline encore plus frappée, c'est la médecine. On en reparlera par la suite, c'est assez ennuyeux, puisqu'il est quand même question de santé, de vie et de mort, avec des épisodes de rétractation complètement phénoménales. Vous avez Fuji, un anesthésiste japonais, qui a publié 183 articles frauduleux. Vous imaginez, ça revient vraiment dont 183 ont été retirés. À gauche, c'est un Allemand, Boll, 88 rétractations. Donc là, on a vraiment affaire à des fraudeurs en série qui se construisent une carrière uniquement sur des travaux qu'ils n'ont pas faits ou qu'ils ont falsifiés. Voilà, donc c'est ça, pour cette introduction, c'est ça qui m'a... Donc c'est des affaires 2013-2011, donc en gros, depuis on va dire depuis une dizaine d'années, il ne se passe pas une année sans que une affaire massive comme ça de fraude éclate. Alors, il faut évidemment se poser la question des causes de tout cela, et qu'est-ce qu'on entend également par fraude ? Une idée que je voudrais avancer, c'est que tout cela n'est pas si nouveau non plus. Il y a toujours eu des scientifiques malhonnêtes, et il y a toujours eu une zone grise, et c'est ça qui est très intéressant, on va en revenir, une zone floue qui montre qu'il y a en fait une continuité entre des pratiques de petits arrangements avec la rigueur qui sont en vérité tout à fait courants dans les laboratoires, et de la fraude authentique. Pourquoi tout ça n'est pas nouveau ? Je vous rapporte ici quelques extraits d'un livre de Charles Babbage, qui est un mathématicien britannique du 19e siècle, qui passe pour un des inventeurs du concept de la possibilité théorique de l'ordinateur, un grand mathématicien britannique, et qui publie en 1831 à Londres un livre qui s'appelle « Considération sur le déclin de la science anglaise ». Déjà, vous voyez, le déclinisme était déjà... Et dans ce livre, il liste plusieurs types de fraudes scientifiques qui contribuent justement à la mauvaise qualité des savoirs construits. Première catégorie, la falsification, donc qui est conçue pour ne durer qu'un temps, pour ensuite être découvert. Par rapport au canular, voilà. La falsification consiste donc à avancer des résultats, d'expériences qui n'ont pas été faites. Mais plus intéressant, ce qu'il appelle la taille, qui consiste à couper ici et là quelques observations qui sortent trop de la moyenne pour se forger une réputation d'observateur exceptionnellement méticuleux. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ça qui donne la couverture au livre. C'est cette manière, vous voyez, d'arranger un petit peu les données. Vous avez quelques points et puis on en rajoute. Alors ça, c'est tout à fait courant dans la pratique de recherche, la pratique du laboratoire. C'est ce qu'on appelle sortir le point qui sort de la courbe. Là, vous avez tac, 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 oh, ben, ça fait une magnifique courbe. Et puis, pour différentes raisons liées aux aléas de l'expérience, liées à des paramètres qui ne sont pas maîtrisés, vous avez une belle courbe comme ça, et puis vous avez un point qui est là. Alors ça, c'est assez courant, et même tout à fait commun, d'enlever ce point. C'est ce que Babbage déjà appelait la taille. Et plus intéressant encore, ce que Babbage appelle le cuisinage des données. Donc il y a un art aux manifestations multiples dont le point commun est de donner à des observations ordinaires l'apparence et les caractéristiques de celles qui sont les plus précises. Une des nombreuses manières de procéder, de faire de multiples observations et de ne sélectionner que celles qui vous plaisent le plus. Alors ça aussi, c'est un usage tout à fait commun dans la pratique de recherche. Par exemple, vous répétez quatre fois une expérience. Vous savez que la reproductibilité en épistémologie est quand même un des fondements de la validité d'une observation. On répète quatre fois, et puis trois fois, l'expérience va donner le résultat A, et puis une fois, le résultat B. Eh bien, on publiera le résultat A. On oubliera, on dira, ça n'a pas marché jour. Alors, on enlèvera l'expérience qui a donné le résultat B. Ça aussi, c'est tout à fait commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de critères, de lignes de démarcation bien nettes entre ce que Babbage appelait la taille, le cuisinage des données et la fraude. Tous les chercheurs vous le diront, il y a une part d'arrangement avec les données expérimentales, et on ne sait pas, on ne peut pas dire à partir de là, là on a franchi cette ligne rouge qui mène à la fraude. Donc si Babbage nous parlait de tout ça en 1831, la question est quand même prend une ampleur nouvelle aujourd'hui. Vous voyez que le terme science fraud recherché dans les livres indexés sur Google Books explose littéralement à partir des années 80 et plus encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est, on parlait tout à l'heure de la médecine. C'est de se demander, vous parlez aussi des cas de Obokata et Sasai, ces japonais, ou de Wang, où on voyait que c'était toujours les disciplines particulièrement affectées étaient la biomédecine, les biotechnologies, la biologie appliquée, enfin tout ce qui est ces sciences du vivant à impact médical. Et en effet, donc là vous avez différentes statistiques qui étudient le taux de rétractation des articles qui sont retirés de la littérature scientifique pour fraude dans différentes disciplines, et la biologie est clairement plus touchée. Celle-là, c'est l'étude la plus, ça c'est le taux de rétractation. Alors, il faut bien souligner qu'on reste à des taux assez faibles, on est à 0,02% de rétractation, donc ça veut quand même dire que 99,8% des données sont stables, mais on a une tendance très nette à l'augmentation, vous voyez, de la fraude en rouge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, il peut y avoir des rétractations d'articles pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'un chercheur peut se rendre compte qu'il a fait une erreur, il peut se rendre compte que, je ne sais pas, il a inversé deux tubes, enfin, il y a une erreur, et ça, c'est des rétractations pour erreur, ils sont en bleu. Elles augmentent légèrement. Ça, c'est tout à fait, c'est au contraire une pratique tout à fait vertueuse et qui contribue justement à l'autocorrection de la science. Mais si ces rétractations-là augmentent légèrement, on voit que les rétractations pour fraude, elles sont vraiment celles qui augmentent le plus. Donc voilà la biologie qui est au cœur de ces problématiques de fraude. Une autre manière de les aborder, donc là c'était pour essayer de quantifier le phénomène, essayer de savoir quelle est son importance, donc on peut mesurer le taux de rétractation. Une autre manière, c'est de faire des enquêtes de type sociologique et d'en adresser à des chercheurs différentes disciplines, des questionnaires qui sont remplis, voilà, principe classique de l'enquête sociologique. Plusieurs travaux ont été faits à ce sujet, qui ont demandé à chercheurs, avez-vous connaissance de cas de fraude, ou avez-vous vous-même, à un moment ou à un autre, fraudé, fraudé étant entendu comme falsifié, fabriqué ou plagié. Voilà, c'est les trois définitions américaines, soit on fabrique des données de toutes pièces, soit on les falsifie, c'est-à-dire on les modifie, soit on plagie. Alors, vous avez là un résumé de ces différentes études de sociologie, et on trouve grosso modo, et ça, il y a une certaine variabilité, mais autour de 2% des chercheurs qui vous disent avoir une fois dans leur carrière, donc évidemment c'est des questionnaires anonymes, hein, 2% des chercheurs vous disent avoir une fois dans leur carrière falsifié ou plagié des données. Mais ce qui est très amusant, c'est que si vous demandez est-ce que vous avez connaissance de collègues qui ont eux-mêmes falsifié, plagié, etc., vous êtes autour de 14%. Donc, il y a toujours une côté, c'est amusant, c'est jamais moi, c'est toujours les autres. Bon, c'est quand même impressionnant, parce que ça donne un aperçu, c'est des déclarations. Alors on peut dire certes que les chercheurs qui sont les plus sensibles à ces questions, qui ont été confrontés à ces questions-là, ont davantage répondu à l'enquête parce qu'ils étaient sensibles. Il y a possiblement des biais, mais d'un autre côté, vous avez là une dizaine d'études qui trouvent, c'est vrai, la variabilité est quand même pas énorme, hein. Ça va entre 10 et 14%, 15%, donc on mesure quand même un phénomène de masse et qui est pour le moins préoccupant. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui, si vous voulez m'interrompre, moi, évidemment, jusqu'au bout, d'accord. Alors, donc là, on a parlé de fraude caractérisée autour de ces idées de falsification, fabrication de données. Ce que je trouve intéressant de discuter aussi, c'est des pratiques de recherche ou des pratiques de publication de la recherche qui, sans être frauduleuses au sens fabrication, falsification, plagiat de données, n'en pose cependant, je trouve, des problèmes pour la rigueur et la qualité du savoir. Alors là, vous avez, il faut peut-être une petite explication sur ce travail. Donc l'usage dans la plupart des sciences expérimentales, c'est de considérer qu'une une expérimentation, une mesure, etc., est valide si on peut calculer statistiquement qu'elle a moins de 5% de chances d'être due au hasard. C'est tout phénomène d'une certaine variabilité naturelle. On refait plusieurs fois l'expérience, et c'est cette valeur qu'on appelle P qui doit être inférieure à 0,05, c'est-à-dire 5% de chances d'être due au hasard. Si on est en dessous, on considère que c'est une publication valable. Si on est au-dessus, on dit que c'est du hasard, c'est pas l'expérience qui a été réellement menée. Or, si on regroupe, vous voyez, plus de 3000 publications, on voit bien que la distribution de P n'est pas du tout ce qu'on pourrait s'attendre, c'est-à-dire une décroissance, mais qu'il y a un seuil à 0,05. Ce qui signifie, alors ça paraît peut-être un petit peu technique, mais si on regroupe 3000 publications, ça signifie que les chercheurs ont délibérément arrangé leurs données pour être juste au seuil de significativité. Voilà. C'est l'intérêt de faire des données de masse. Et pourquoi, ce qui est intéressant aussi, ça c'est en comparant, pareil, sur plusieurs milliers d'articles, ce qui se passait en 1965 et ce qui se passe aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ce que ça montre, c'est que cette tendance à sortir des points de la courbe pour être juste, en dessous du seuil de significativité, est beaucoup plus forte aujourd'hui, de ces 2005 qu'en 1965. Pourquoi ? Parce que précisément, ces calculs de P en 1965, ça se faisait à la main, et c'était très 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 long, avec des tables, etc. C'était extrêmement long. Donc on ne pouvait pas essayer de dire, maintenant ça se fait avec un ordinateur, en 3 clics, on a son calcul, et donc ça rend extrêmement tentant de se dire, tiens, et si j'enlevais un point haut, si j'enlevais deux points et puis trois pour voir si ça permet pas justement de transformer un jeu de données en quelque chose de significatif. C'est une sorte de pousse au crime liée au logiciel de statistique qui font que c'est beaucoup plus simple, comme 65, et ce qui donne cette recherche qui trouve, que je voulais également développer sur trois autres aspects. Alors ça, c'est un sociologue des sciences italien qui s'appelle Daniele Fadelli qui était frappé de voir que les articles scientifiques avaient une tendance croissante à toujours répondre positivement à l'hypothèse qu'il formulait. Vous voyez, un article scientifique, c'est souvent le plan. Ça dépend un peu des disciplines, mais le plan est à peu près toujours le même. C'est, vous avez une introduction où on va poser une question et dire « je fais l'hypothèse, par exemple, que le phénomène A cause le phénomène B ». Puis ensuite, vous aurez la description des protocoles de recherche, puis des résultats, puis une discussion, et à la fin, on dira ben, « je trouve, oui, effectivement, que le phénomène A cause le phénomène B, etc. » Et ce qui intriguait Daniele Fanelli, c'était que les chercheurs avaient une tendance croissante, on n'est pas, c'est pas toujours, mais à répondre positivement à la question qu'ils se posaient. Tu sais, c'est en introduction, on demande « je me suis demandé si le phénomène A cause le phénomène B » et on trouve une tendance croissante à dire que oui, en effet, le phénomène A cause le phénomène B. Vous voyez, en physique, en début des années 90, on était à 65%, maintenant on est à 80% de recherche qui dit « oui, le phénomène A cause bien le phénomène B », en sciences sociales pareil, en biologie pareil. Alors, comment interpréter tout cela? Est-ce que ça veut dire que les chercheurs sont de plus en plus perspicaces, et donc ils ne posent que des bonnes questions? Ou alors est-ce que ça veut dire qu'ils réécrivent leur expérience et leurs articles en réécrivant l'histoire, finalement? Parce que dans la réalité du travail expérimental, eh ben, on peut trouver que le phénomène A, il va causer le phénomène C, ou bien qu'il va causer le phénomène A', etc. On n'a pas de raison de tomber toujours juste en disant, bah oui, tiens, le phénomène A cause bien le phénomène B. Or, c'est pourtant ce que racontent des articles scientifiques. D'une manière, j'y reviendrai par la suite, mais c'est une manière, disons, de réécrire la réalité de la recherche qui est menée. Voilà, c'est on publie ce qui marche. Cette idée-là, justement, on ne publie que des travaux qui confirment l'hypothèse que m'avait indiqué, c'est ce que les Anglais appellent le arcing. Hypothesizing after results are known, c'est-à-dire qu'on va formuler l'hypothèse une fois qu'on a obtenu les résultats. Ce qui n'est pas exactement la méthode rationnelle qu'on aimerait voir en œuvre. Pourquoi donc faire cela? On peut demander, après tout, on pourrait publier tous les travaux, y compris même ceux les travaux qui n'ont pas été concluants. Eh bien, parce qu'on ne publie pas, c'est un des usages tout à fait regrettables d'ailleurs, où on publie très peu dans la littérature scientifique les résultats dits négatifs. C'est-à-dire que, je vais tester le rôle de la molécule A sur le phénomène B. Bon, ben, je trouve que la molécule A n'a pas de rôle, n'a pas d'effet sur le phénomène B. Eh bien, ça, on ne publie pas. Ce qui est très dommage. On ne publie pas pourquoi, mais parce que il y a bien quelques journaux négatifs, par exemple le Journal of Negative Results, mais c'est un journal tout à fait confidentiel, et vous savez que l'évaluation d'une carrière d'un chercheur dépend de ses publications, la célébrité des publications. En fait, c'est publié dans ce type de journaux n'a aucun prestige. Donc on ne publie pas, et donc c'est assez regrettable du point de vue du savoir collectif, parce que ça peut conduire, par exemple, certains chercheurs à refaire cette expérience en vain, alors que d'autres l'ont déjà fait, ont constaté que ça ne marchait pas, mais on va le refaire. Ça peut conduire également à une vision, je trouve, tout à fait biaisée de l'activité scientifique. C'est un petit peu ce qu'on racontait tout à l'heure, avec ces belles histoires, les revues les plus prestigieuses, Nature et Science en particulier, aiment beaucoup les articles construits autour comme un récit, après qu'une hypothèse qui est construite, et puis qu'on va confirmer après. Ce qui est très ennuyeux avec ce manque de rigueur, que ce soit sous la forme de fraude authentique ou, disons, d'arrangement, comme ce que je montrais sur les valeurs de P, c'est que, bon, d'une part, ça, c'est un gaspillage de fonds, évidemment. On parle c'est de l'argent public, de l'argent public. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, la question du traitement de la fraude scientifique est prise juridiquement comme un cas particulier de détournement de fonds. Ce qui peut se défendre, c'est-à-dire un chercheur a eu de l'argent public pour mener telle recherche, il a fraudé, et bien c'est comme s'il avait volé cet argent public. Alors c'est pas du tout l'approche qui est tenue en France, ou même en Europe. C'est une approche typiquement américaine, mais qui a le mérite, disons, d'un certain pragmatisme. Il y a eu des cas de condamnation de la prison, d'ailleurs, aux États-Unis, pour des cas de fraude massive. Donc, il y a ce coût de la fraude, c'est évidemment cette question du gaspillage, mais beaucoup, beaucoup plus ennuyeux, je trouve, c'est la question de la littérature scientifique toxique. Alors, pourquoi j'appelle ça la littérature scientifique toxique ? Et là, le problème, c'est que vous avez des fraudeurs. On parlait de Joachim Bolz, cet anesthésiste allemand dont je parlais au début, qui a eu 88 articles retirés. Mais il reste des articles de Bolz qui n'ont pas été retirés. Parce que la commission d'enquête de son université, qui avait été amenée à étudier ses travaux et qui a conclu à la fraude sur 88 articles, n'a pas trouvé d'arguments, n'a pas trouvé de preuves pour demander de retirer de la littérature scientifique une vingtaine d'articles de Bolz. Alors ça pose un problème très concret, très pratique, qui est que ces travaux de Bolz portaient sur l'utilisation d'une certaine substance en réanimation. Je ne rentre pas dans les détails. Si, et cette substance a un rapport coût-bénéfice qui n'est pas évident à mesurer, elle a des effets secondaires, mais d'un autre côté, elle peut faciliter la réanimation. Bref, la situation n'est pas très claire. Alors souvent, quand une situation n'est pas claire comme ça, on procède à ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire on regroupe l'ensemble des études expérimentales sur cette substance, comme si c'était une seule grosse étude, et on voit si on peut conclure à l'effet plutôt positif, à le rapport coût-bénéfice positif ou non. Eh bien, selon que l'on intègre dans cette méta-analyse les travaux restants de Bolz, les 20 travaux, les 20 articles qui n'ont pas été retirés, on ne trouve pas la même conclusion. Si on garde les travaux de Bolz dans la méta-analyse, on trouve qu'il faut utiliser cette substance en réanimation. Elle a des effets secondaires, certes, mais qui sont inférieurs. Si on enlève les travaux de Bolz, on pense qu'il ne faut pas utiliser cette substance parce qu'elle a trop d'effets secondaires. Donc on se retrouve dans une situation extrêmement préjudiciable et qui génère pour le coup de l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas ce que j'appelle la littérature scientifique, on ne sait pas quoi penser de ces travaux. On n'a pas pu démontrer qu'ils étaient frauduleux. D'un autre côté, quand on voit un chercheur qui a été capable de frauder à 88 reprises, on peut être perplexe quant à son intégrité. Pourquoi aurait-il été... Surtout que c'est pas... La situation serait simple si c'était 20 articles d'une certaine période de sa carrière, et puis les 88... Après, non, c'est dispersé comme ça. Une année, il publiait 5 articles, dont un qui n'a pas pu montrer qu'il était frauduleux. Ça, c'est tout à fait préjudiciable. Ça, je pense que c'est le problème principal de la fraude, c'est qu'il y a cette littérature toxique qui est en circulation, soit parce qu'on n'a pas pu démontrer la fraude, soit parce qu'ils n'ont pas été retirés. Un autre aspect extrêmement important, je trouve, des dangers pour la santé réellement de la fraude, c'est cet article de Andrew Wakefield, qui était publié, apparu dans le Lancet, revue médicale britannique assez prestigieuse, qui avançait l'idée que la vaccination contre la rougeole était une cause possible d'autisme. Vous avez peut-être entendu venir de ça. C'est un argument qui revient régulièrement dans le débat sur les vaccins en France. Cet article était frauduleux, donc il a été retiré, et Wakefield d'ailleurs s'est sauvé aux États-Unis, il a été radié de l'ordre des médecins en Angleterre. Et il est parti aux États-Unis où il travaille maintenant pour un lobby anti-vaccin. Mais, d'une certaine manière, le mal était fait. Puisque l'article avait été extrêmement repris par les médias, il est à l'origine d'un effondrement des taux de vaccination contre la rougeole en Angleterre, et on le voit également en France. Il y a une dame qui est décédée de la rougeole cet hiver en France, c'est quand même la première fois depuis de nombreuses années. Bref, la fraude scientifique peut aussi avoir un impact énorme sur des questions de santé publique par l'image. Une fois que l'idée est insérée dans les opinions, il est très difficile de s'en débarrasser. Le cas de Wakefield, Andrew Wakefield, est d'une certaine manière est le plus simple parce que nous avions affaire là à quelqu'un qui était mu par une idéologie. C'est quelqu'un qui était un croisé de l'anti-vaccination. Bon, il a falsifié des données pour faire avancer ses thèses. C'est tout à fait dommageable et tout à fait condamnable, mais d'une certaine manière, c'est assez simple, on comprend. Par contre, ce qui est plus intéressant à discuter, c'est non pas ces gros fraudeurs en série, ou qui font une énorme fraude, ou qui en font des dizaines, comme Fuji ou Bolz dont j'ai parlé, mais plus l'incitation à la fraude qui en fait de fait quasiment de l'ordre du système. Cette incitation à la fraude, elle est pour moi liée à l'intensification de la compétition internationale en recherche. Comme on a l'occasion de le dire, vous savez, la carrière d'un chercheur va dépendre de son nombre de publications et du prestige des revues dans lesquelles il publie. Mais, et là aussi, c'est comme on parle tout à l'heure de cet usage qui est qu'on ne publie pas les travaux négatifs, il y a également l'usage que c'est la première fois que l'on montre un phénomène qui va avoir un certain prestige. Si on reproduit le phénomène, si on le deuxième à trouver quelque chose ou le troisième à trouver quelque chose, et bien ça sera extrêmement peu intéressant. On ne publiera pas dans une revue célèbre. Si vous êtes le premier à faire quelque chose, vous le publiez dans une revue à très fort facteur d'impact, comme on dit, c'est très lu, Nature, Science et compagnie. Si vous êtes le deuxième, vous aurez le droit à une petite revue de second ordre. Quand on y songe, c'est tout à fait dommageable, parce que le fait que quelqu'un soit le deuxième à observer un phénomène est très important pour la solidité du savoir. Précisément, ça montre que le phénomène est reproductible, donc ça serait tout aussi intéressant. Cela dit, les mécanismes internes à la communauté scientifique, que ce soit les publications ou les récompenses, les médailles, prix Nobel et compagnie, c'est toujours ça va au premier et jamais au deuxième ou au troisième. Donc cette intensification de la compétition scientifique internationale pourrait justement être le premier. Elle est liée à l'émergence de la Chine comme puissance scientifique majeure en nombre d'articles. Finalement, la science est une industrie comme une autre, et la Chine, on sait, a un développement industriel extrêmement rapide. En nombre d'articles, la Chine est maintenant le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, en nombre d'articles publiés. Je parle des articles publiés en langue anglaise, qui est toute une littérature scientifique qui est très peu connue, qui est en langue chinoise, mais c'est essentiellement ce qui est publié en anglais, alors qu'elle était le neuvième pays au monde encore en 2010. Maintenant, c'est le deuxième au monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette émergence de la Chine comme une puissance scientifique se fait dans un contexte d'organisation du système de recherche chinois qui est, à mon sens, de manière inhérente, fraudogène. Pourquoi ? Parce que la rémunération des chercheurs est directement indexée au prestige des revues dans lesquelles ils publient. En l'occurrence, dans la plupart des universités chinoises, publier dans Nature, Science et PNAS vous vaut une prime annuelle de 10 000 dollars. Ça, je trouve que c'est un phénomène profondément fraudogène. C'est-à-dire que la compétition est inhérente au monde de la recherche, cette concurrence a toujours existé. Par contre, quand on en vient pas seulement à cette compétition pour la renommée, etc., pour être le premier à montrer tel phénomène, mais également que c'est votre salaire, votre train de vie lui-même qui va être indexé, je pense que c'est un des facteurs importants de fraude. Un autre facteur, je trouve, qui contribue à la fraude, c'est le financement croissant sur contrat, sur projet. Alors, je vais te dire un petit mot sur ce sujet, sur le fonctionnement de la recherche. On va prendre le cas français qui est le plus simple. Jusqu'à, disons, il y a encore 20 ans, les laboratoires obtenaient ce qu'on appelle un financement dit récurrent. C'est-à-dire que le laboratoire avait, par exemple, 1 million d'euros, c'est des francs à l'époque, 1 million de francs pour l'année. Et puis, il travaillait, il faisait ses recherches, et puis il y avait une évaluation tous les 4 ans. Et après, donc, le laboratoire se débrouillait avec son financement, son million d'euros, etc. Ces financements récurrents sont de plus en plus faibles. Alors, les salaires sont toujours payés, parce que les chercheurs sont, pour beaucoup d'entre eux, fonctionnaires en France, mais tout l'argent nécessaire à la conduite de la recherche, à la conduite des expériences, etc., est de plus en plus sous forme d'appel d'offres, avec une agence qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche. Donc, vous n'avez plus de l'argent comme ça qu'on vous donne, puis vous débrouillez avec, tous les 4 ans, vous demandez, vous faites un financement sur projet. Et donc vous demandez à l'ANR, voilà, je voudrais faire telle expérience, et vous obtenez ou vous n'obtenez pas une certaine somme qui vous permettra de travailler. Ce qui est très ennuyeux là-dedans, dans ce système de financement sur projet, c'est d'une part que cela peut aboutir à cette aberration qui est que certains chercheurs, tout en étant toujours payés, puisqu'ils sont fonctionnaires, n'ont pas l'argent pour mener leur recherche, donc c'est un gaspillage absurde. Et puis surtout, je trouve que ça incite terriblement cette pression au financement, puisque vous pouvez vous retrouver dépourvu de l'argent
permettant d'exercer votre métier, ça peut avoir un effet frondogène. C'est du moins ce que suggère cette image. Donc c'est aux États-Unis, il n'y a pas le cas comparable en France, malheureusement, il n'y a pas d'études comparables. C'est une étude sur le financement. Donc les États-Unis sont depuis de longue date familiers de ce système de financement de la recherche sur projet, donc pas de financement récurrent, mais sur projet. Et on a donc là le budget d'un certain nombre de chercheurs qui ont été reconnus coupables de fraude par l'Office of Research Integrity, qui est un organisme américain, donc c'est un cadre biologique qui est chargé de traquer la fraude scientifique. Donc vous avez ces chercheurs qui, à l'année zéro, ont été reconnus coupables de fraude. Or, on voit bien que le budget de ces chercheurs était en nette diminution. Oui, ils étaient à 6 millions de dollars, et plus de 2 millions de dollars. Donc, on peut interpréter cette image, que je trouve très intéressante, enfin, cette donnée, comme le fait que c'est précisément parce qu'ils étaient acculés financièrement, que leur laboratoire était manqué de manière croissante d'argent, que les chercheurs se sont justement laissés tenter par la fraude permettant de publier dans des bonnes revues, donc d'avoir de financement, etc. Je pense qu'il faut cette question du financement par projet, ce publish or perish, comme on dit, le publier ou périr, est extrêmement importante dans la genèse de la fraude. Un autre aspect méconnu qui contribue à la diffusion d'articles scientifiques, je donnerai des exemples par la suite, ou prétendument scientifiques frauduleux ou de très très mauvaise qualité, c'est l'évolution de l'édition scientifique. Alors c'est un petit peu technique là aussi, mais c'est extrêmement crucial. Donc les revues scientifiques dans lesquelles publient les chercheurs étaient jusqu'à il y a une quinzaine d'années fondé sur un système d'abonnement. Des bibliothèques, les centres de recherche s'abonnaient aux revues, et puis publier dans ces revues était gratuit. Donc c'était le lecteur qui payait en quelque sorte. Alors ensuite il y a eu le système numérique, c'était plus les bibliothèques papier, mais bon, bref, on payait, on s'abonnait à des revues. Est apparu on va dire au milieu des années 2000 un système d'édition inverse, dit open access, donc d'accès libre, où ce n'est plus pour lire que l'on paye, mais pour publier dedans. C'est-à-dire que le chercheur qui veut publier une étude paye, en général, ça de l'ordre de 1 500 $, pour publier dans cette revue. Mais à l'inverse, lire la revue est gratuit. Ce système n'est en soi ni bon ni mauvais. Il a des avantages, notamment de permettre un accès à un savoir scientifique à tous, puisque c'est gratuit, il n'y a plus à aller dans une bibliothèque. Mais, d'un autre côté, c'est pour ça d'ailleurs que plusieurs institutions, dont la Commission européenne, incitent à publier dans ces revues en accès ouvert, au nom justement du fait, puisque cette recherche est financée avec des fonds publics, il est normal que le public puisse avoir accès aux résultats de cette recherche. Donc en soi, le système d'open access, qui cohabite avec le système des revues par abonnement, n'est pas mauvais en soi. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est le détournement de ce système des revues en open access par des éditeurs que l'on appelle prédateurs, qui sont des maisons d'édition dont le seul but est d'encaisser l'argent des chercheurs qui publient dans ces revues en open access. Donc ce sont des maisons d'édition qui sont souvent basées en Inde, au Pakistan, au Nigeria, qui acceptent à peu près n'importe quoi, même tout à fait n'importe quoi, je vais en donner des exemples par la suite, pour publier dans leur colonne, et qui, évidemment, sont fondées sur le fait qu'on peut ainsi... les chercheurs payent pour publier dans leur colonne. Donc ces éditeurs prédateurs, pour dire à quel point c'est n'importe quoi, voilà un de ces revues, International Journal of Advanced Computer Technology. Vu comme ça, ça a l'air d'être une revue scientifique tout à fait savante, eh bien, cette revue a accepté cet article-là, oui. ce qui fait allusion au fait que les chercheurs sont très souvent démarchés massivement par ces éditeurs prédateurs pour reviewer, c'est-à-dire relire les articles. Donc ils publient absolument n'importe quoi, et là aussi ça a des effets importants, je trouve, sur la diffusion du savoir. Voilà, The Open Chemical Physics Journal. Là aussi, vous me direz, ça a l'air d'être une revue scientifique tout à fait savante et tout à fait sérieuse. Bon, ils ont publié cet article-là qui montre que qui est une analyse chimique des débris des tours jumelles de New York et qui montrent, d'après cette étude, que leur effondrement n'était pas causé par l'impact des avions, mais par des explosifs qui auraient été placés à la base. Donc la théorie conspirationniste absolument classique, fondée par un type qui est le Steve Jones, un physicien qui est lui-même un conspirationniste de premier rang. Vous voyez que ce genre d'études, qui n'a absolument aucune valeur scientifique, se présente comme de la science, se présente comme de la valeur scientifique, et est publié par ces revues qui sont extrêmement dangereuses, je trouve, puisqu'elles ne sont vues que par la base du gain. Un autre exemple, on voit revenir dans une de ces revues, Translational Neurodegeneration, ça a l'air d'être une revue sérieuse, on voit revenir dans exactement la même histoire que Wakefield avec l'impact de la vaccination contre la rougeole sur l'autisme, avec cette fois juste une variance, que ça serait seulement chez les Afro-Américains. Bref, ce sont des travaux qui n'ont absolument aucune valeur, qui sont publiés par des revues qui elles-mêmes n'ont absolument aucune valeur, mais qui, quand on n'est pas du domaine, quand on ne connaît pas etc., on peut les prendre. Donc, ça contribue à l'intensification de ce que j'appelle la littérature toxique, c'est-à-dire qu'il y a en circulation des choses pourront avoir l'air d'une étude scientifique sérieuse. Quand on n'est pas du domaine, quand on n'est pas chimiste, et qu'on ne connaît pas cette histoire des nanothermites qui auraient été trouvées dans les débris des tours jumelles de New York, on peut croire, vous prenez un étudiant, on peut croire que c'est sérieux. Donc c'est extrêmement... le rôle de ces éditeurs prédateurs, je trouve, est extrêmement nocif. Voilà, alors pour conclure, bon, on pourra discuter de plusieurs aspects de tout ça après, mais je pense qu'il... on pourra aussi discuter des moyens de faire face à la fraude, mais je pense que c'est le système même de diffusion de l'information scientifique qui est à revoir si on veut s'attaquer à la fraude. Il y a des mesures très concrètes, par exemple plus de financement récurrent des chercheurs et moins de financement par projet. Ça, c'est tout à fait évident de bon sens, mais l'idée même de l'article scientifique, je trouve, est en crise. Cet article, donc, on a vu avec sa structure classique, une introduction, une description du protocole, puis les résultats, puis la discussion, ça a été le mode de diffusion durant tout le XXe siècle. On peut se demander si c'est toujours un mode de diffusion du savoir scientifique adapté à une époque où, par exemple, on a la possibilité de placer toutes les données, et non pas seulement les données qu'on a choisi de présenter dans les articles, en ligne. On n'est plus limité sur la quantité d'informations qu'on donne. Alors que la formule de l'article scientifique conduit justement à privilégier certaines données plutôt que d'autres, raconter une belle histoire. On trouve en général, on confirme l'hypothèse qu'on avait formulée. Cette critique de l'article scientifique est assez ancienne. Ou plutôt elle n'est pas nouvelle. Vous voyez, j'ai retrouvé ça dans les mémoires de François Jacob, cet immense biologiste, prix Nobel de biologie, et par ailleurs remarquable écrivain, qui disait, je retiens surtout cette phrase, il y a un rite dans la manière de présenter les résultats scientifiques, un peu comme si on écrivait l'histoire d'une guerre d'après les seuls communiqués d'état-major. Vous voyez, donc cette critique du fait que l'article en soi ne dit pas la réalité du travail expérimental, c'était, on n'avait pas tellement le choix pendant des années, mais maintenant qu'il y a la possibilité de publier les résultats bruts, non pas votre bel cours, mais le tableau statistique entier, vous pouvez le mettre en ligne, etc. On peut se demander si c'est pas, il faudrait pas, enfin, il y a des réflexions qui existent en particulier dans le milieu des physiciens, avec une revue qui s'appelle Archive, qui place en ligne justement et qui soumet à la critique de tous les collègues de la discipline les résultats bruts, les travaux de recherche en cours, etc., sans attendre d'arriver à les finaliser dans cet article qui va au final faire une sorte, surtout une belle histoire, mais qui sera tout à fait éloignée de la réalité, de la manière dont la recherche a été conduite. C'est ce que disait François Jacob aussi. Vous voyez qu'on dit quand on écrit un article, on remplace l'ordre des événements et des découvertes par ce qui aurait dû être suivi si au début la conclusion avait été connue. La réalité, c'est François Jacob qui dit, vous voyez, c'est un prix Nobel qui le sait bien, que cette réalité du travail de recherche va être fait d'errances, de fausses hypothèses, de retours en arrière, etc. Et c'est ça qu'on va rendre, au contraire, comme une belle histoire dans un article.
Et voilà, je pense que ça serait une piste de réflexion, de trouver d'autres modes. Après tout, quand on regarde avec le recul de l'histoire, il y a eu des modes variés de communication des savoirs scientifiques. Au XVIIIe siècle, c'était les correspondances, par exemple. Vous savez qu'on publiait les correspondances, au XVIIe d'ailleurs, on échangeait par croissance, puis on publiait les lettres, je sais pas, les lettres de Galilée à Descartes, etc. Ensuite, au XIXe siècle, ça a plutôt été le livre, qui a été le mode de diffusion du savoir scientifique. Au XXe siècle, ça a été l'article. Il est tout à fait possible qu'on aille vers d'autres modes, alors qui pourraient être notamment la mise en ligne de l'ensemble des données, ce qui permettrait justement de mieux contrôler aussi comment ces travaux ont été faits. Si toutes les données brutes sont publiées, et bien ça donne une certaine garantie qu'on n'a pas choisi justement quelques points qui nous arrangeaient. Voilà, je pense que ce serait également une piste de réflexion pour l'avenir. Et maintenant, je me réjouis de discuter de tout cela avec vous.